Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Éric Ciotti charge clairement Bruno Le Maire et Bercy. Il menace d'une motion de censure contre un éventuel texte de loi de finances rectificatif qui probablement pourrait intervenir cet été. Et il considère que Bruno Le Maire aura à lui seul accumulé 1000 milliards d'euros de dettes. Alors mérite-t-il ce procès? Au moment où, vous le savez, notre ministre de l'économie sort un livre de pistes et d'idées pour l'économie française qu'il a baptisé La Voix française. Après, on reparlera de cette fameuse expression, l'État protège versus l'État-providence. À l'occasion des événements de Marseille, j'ai remis cette bonne vieille question à la une. Faut-il légaliser le cannabis? Je dis bonne vieille question parce qu'il y a eu des quantités de rapports sur ce sujet depuis déjà pas mal d'années. Notamment, le Conseil d'analyse économique, en 2019, avait commis un élément chiffré pour défendre l'idée qu'il fallait légaliser. J'ai bien dit légaliser, hein. C'est plus loin que la dépénalisation. On redira un petit mot du signal envoyé par la Banque du Japon en relevant ses taux pour la première fois depuis 17 ans. Et puis, faut-il y voir un nouveau recul du gouvernement sur les contraintes vertes? Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a reculé clairement sur les contraintes des zones à faible émission. Il n'y a que Paris et Lyon qui devront, début 2025, interdire la circulation des véhicules notés critère 3 dans les centres-villes. Enfin, explication de texte sur l'union des marchés de capitaux. Tout le monde ne parle que de ça. Mais qu'est-ce que c'est vraiment que l'union des marchés de capitaux et où en sommes-nous? Bonjour Sylvie Matera.
Bonjour.
Qui va me faire l'explication de texte des marchés de capitaux. C'est parce que vous êtes là que j'ai mis le sujet, parce que je sais que vous connaissez bien ces thématiques. Vous êtes senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazars. Je vais penser à présenter tout le monde, parce qu'hier, il y en a deux que je ne vais pas présenter.
Ah, quand même.
Bah voilà. Bah oui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mathieu Plante, bonjour.
Bonjour.
Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Et Guillaume Richard, bonjour.
Bonjour.
Président du groupe de services à la personne WeCare. Voilà. Bon, Bruno Le Maire se fait sévèrement. Alors, est-ce que c'est de la politique. Mais quand vous voyez Ciotti qui charge Bruno Le Maire, qui dit « Moi, de toute façon, loi de finances rectificative, je fonce dans le tas avec une motion de censure. » Et Bruno Le Maire est celui qui aura laissé 1000 milliards d'euros de dette. Ça vous inspire quoi, Guillaume?
Pour moi, c'est de la politique politicienne. C'est pas, enfin, il était aux responsabilités quand il y a eu la crise du Covid. On ne peut pas lui imputer l'intégralité du coût de la crise de Covid. Je pense qu'il n'y a pas ça a pas forcément de sens.
Ça veut dire que sur les 1000 milliards d'euros de dette, il y en a certains qu'on ne pouvait pas faire autrement? C'est un peu ça l'idée?
Bien évidemment, on peut toujours faire autrement. Mais imputer l'impact d'une politique très ancienne de protectionnisme, enfin de protection, pardon, de protection des Français, qui est l'État-providence dont on reparlera tout à l'heure, et lui imputer le fait d'avoir géré la crise, et plutôt bien géré la crise, si on, dans les milieux économiques, en moyenne, on considère que la crise, elle a plutôt été bien gérée en France. Il y a pas de, enfin, je pense que c'est pas très fair play. De lui imputer l'intégralité des 1000 milliards.
L'intégralité des 1000 milliards. La Cour des comptes est un petit peu plus dure quand même avec ce qui a été fait, considérant que le quoi qu'il en coûte, oui, sans doute, il fallait le faire, mais qu'on l'a fait un peu longtemps et un peu de manière non ciblée. Voilà. Il mérite ce procès, Mathieu Plane, Bruno Le Maire. C'est vrai qu'honnêtement, si on fait de la politique et qu'on veut être un peu dans l'opposition, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait depuis 2017? Parce que Covid, c'est 2020, mais il arrive en 2017, la dette n'a cessé de gonfler, il nous sort un livre avec des solutions et des pistes.
Alors, moi, bien sûr, je ne ferai pas ce procès-là, mais il y a eu quand même des renoncements, c'est clair, du côté budgétaire. Hein,
parler des renoncements des 10 milliards de cette année, là.
Alors, mais il y a eu plusieurs choses. Hein, quand on regarde toute la dynamique, hein, c'est depuis 2017, hein, d'après ce que j'ai compris. C'est sur, enfin, en tout cas, le bilan, premier quinquennat jusqu'à maintenant. Clairement, la question des finances publiques n'était pas au cœur de la politique économique d'Emmanuel Macron, hein, de toute façon. Mais il y avait quand même un objectif de trajectoire budgétaire. Alors effectivement, qui a été très secoué par les crises qui sont venues percuter le monde, hein, que ce soit la crise Covid ou la crise énergétique. Mais avant, quand même, il y a eu un certain nombre de choses. Je vous rappelle juste que dans le programme de financement, notamment du premier quinquennat, il y avait toute une partie sur la fiscalité indirecte et la taxe carbone. qui était importante, hein, ça représentait quasiment 15 milliards sur l'ensemble du quinquennat, qui a été renoncé pour des bonnes raisons, certainement, hein, suite à la crise des Gilets jaunes, mais il n'y a pas eu de compensation. Il y a eu la même chose.
C'était un renoncement non
financé. Il y a renoncement. Donc, non financé, les autres mesures ont été pratiquées. Elles ont même été amplifiées avec la crise des Gilets jaunes, mais jamais il y a eu le financement en face. On a eu des baisses d'impôts sur le revenu. Après, à la suite de ça, et ça, c'est un autre point aussi, hein, moi, où j'étais un peu critique, j'étais plutôt pour la baisse des impôts sur la production, qui était mis dans le plan de relance, mais c'était pérenne. Jamais, à un moment donné, on nous a dit, qu'est-ce qu'on met en face? C'est-à-dire qu'on a gardé les baisses d'impôts sur société qui ont été passées de 33 à 22, mais en plus, on a rajouté une couche qui sont les baisses des impôts sur la production. Mais à aucun moment, on disait comment on finance tout ça. Donc, je dis pas qu'il fallait pas, bien sûr, la crise Covid, elle a été plutôt bien gérée, peut-être un peu trop parfois, parce qu'on a eu très peu de faillites, ce qui est quand même un peu particulier dans un moment.
On est allé très loin, beaucoup plus loin que les autres.
Voilà. Mais ce qui est jamais difficile, ce qui est toujours difficile de cibler, hein, au moment de crise, donc, ça pose quand même cette question-là. Et la question des boucliers, est-ce qu'il fallait qu'ils soient pour tout le monde ou si les boucliers tarifaires? C'est-à-dire qu'effectivement, l'argent public ne comptait pas beaucoup. Ne comptait pas beaucoup et que finalement, on a donné la priorité à des réponses politiques à l'instant présent, et c'est la crise des Gilets jaunes notamment, des mesures pour les entreprises pendant la crise, mais sans jamais parler d'un moment donné de dire ben, il va falloir le financer quand même et que c'est mais certainement
c'est,
pas toi.
Ce que vous décrivez, Mathieu, c'est bien une responsabilité politique.
Oui, alors, mais je ne mettrai pas les 1 000 milliards, c'est ça le truc.
Ah oui.
J'ai une partie, bien sûr, mais aussi ça a permis d'éviter certainement une forte augmentation du chômage, ça a évité un écroulement de la croissance, etc. Mais malgré tout, il y a certaines mesures, je trouve, qu'on doit payer aujourd'hui. On ne nous a jamais dit à un moment donné il va falloir les financer. Et souvent, le discours a été de dire c'est la croissance qui va financer tout ça. Or, effectivement, les scénarios de croissance étaient quand même particulièrement optimistes. Et jamais il a été dit, mais qu'est-ce qu'on fait si la croissance n'est pas au rendez-vous? Et aujourd'hui, on est confronté à ça. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on est face un peu à ce mur des déficits, cette façon de vouloir réduire déficit. Mais on n'a pas, j'allais dire, le début vraiment de la réflexion de quelles sont les solutions qui vont être apportées, qui sont un peu structurelles pour résoudre les problèmes.
Donc, on a comme...
Donc on dit il y a 10 milliards, après on dit il y a 20 milliards, en fait c'est pas vraiment 10 milliards, après on nous dit, donc vous voyez, ce que je veux dire c'est que aujourd'hui on se retrouve un peu dos au mur, et à mon avis c'est problématique parce qu'il aurait fallu, à mon avis, anticiper un peu plus, voilà.
Ben, les solutions structurelles, n'hésitez pas à prendre la parole Sylvie, les solutions structurelles, si on reprend les propos de Bruno Le Maire dans le JDD, c'est nouvelle réforme de l'assurance chômage, oui, remise en cause de pas mal de dépenses sociales, notamment le remboursement intégral des affections longue durée, ce type de choses. Alors, est-ce que c'est vraiment de la vision politique et de la réforme de fond?
Je rappelle que la Cour des comptes, enfin, le gouvernement a parlé de 10 et 20 milliards, que la Cour des comptes parle de 50 milliards, enfin, en tout cas, Pierre Moscovici parle de
50 milliards d'ici à 2027.
D'ici à 2027, oui. Que le gouvernement ne veut pas augmenter les impôts et la fiscalité et qu'on a des objectifs à tenir en termes d'engagement climatique, en termes de loi de programmation militaire, en termes de santé, en termes d'éducation, etc.
C'est juste impossible. C'est un super triangle d'incompatibilité.
Qui est prévu pour le moment, à partir de 2025, à 1,7 et après à 1,8%. Voilà, je dis juste que potentiellement, ça ne sera pas le scénario de croissance et les 3% vont être très difficiles à tenir si on veut tenir tous les engagements qu'on a pris.
On ne peut pas. Objectivement, on peut pas. Il faudra dégainer un impôt à un moment. Oui, allez-y, Guillaume, et puis je fais réagir Sylvie Matera.
C'est pour ça qu'il veut passer d'un État providence à un État protecteur.
Bon, on revient là-dessus dans un instant. État protecteur. Sylvie, ça vous inspire quoi ce qu'on se dit? Parce qu'il y a quand même un moment où, quand on est effectivement à la tête de Bercy, et bon, c'est pas mal d'avoir un ministre qui est là depuis si longtemps. Ça crée de la stabilité. Mais objectivement, la situation n'est pas brillante.
Ah non, c'est pas qu'elle est pas brillante, c'est qu'elle est assez catastrophique quand même.
Ah, vous mettez catastrophique.
Ah oui, oui. Et je trouve que, bon, la phrase d'Éric Ciotti, je pense aussi que c'est une remarque politicienne, mais ça a l'avantage de faire prendre conscience qu'on est face à un mur. On a vraiment un gros problème de finances publiques qui n'a pas, alors, c'est vrai que on comprend pourquoi, les crises ont été bien gérées. Il y a eu une succession quand même incroyable de crises pour la France, entre les gilets jaunes qui étaient spécifiques à la France, le Covid que tout le monde a eu, après, la guerre, la crise énergétique, enfin, il y a une succession de situations tout à fait incroyables qui a donc... On comprend pourquoi on est là, mais il faut vraiment trouver une solution, parce qu'aujourd'hui, je pense que Bruno Le Maire s'agite énormément, parce qu'il a ce rendez-vous très prochainement avec les agences de notation.
Vous voyez que cette fois-ci, il les redoute plus que les
fois... Je pense, oui.
C'est un peu le même problème, j'ai cette impression aussi.
Et que si ça se passe mal, là, on va... entrer dans un cercle vicieux où les mauvaises nouvelles vont attirer les mauvaises nouvelles. Et donc ça c'est vraiment
problématique. Ça va être les canards sauvages de Chirac.
Donc effectivement, il faut trouver des solutions. Et continuer à dire on va baisser les impôts, c'est une bonne chose. Je suis aussi tout à fait favorable à la baisse des impôts de production, par exemple. Mais au bout d'un moment, si on baisse toutes les recettes, il y a quand même un problème. Il faut trouver une solution. Et il faut trouver une solution. Je pense qu'on est arrivé au bout des rafistolages. Enfin, je ne sais pas si rafistolage c'est le bon terme, mais il faut penser à des solutions structurelles.
C'est ce que disait Mathieu.
Parce qu'on n'arrivera
pas. Une réforme de l'assurance chômage, c'est structurel.
Oui, et puis même la fiscalité, ça fait mais pas des dizaines d'années qu'on prend des petits bouts, qu'on rajoute des petits endroits. Il faut avoir le courage à un moment de tout remettre à plat parce qu'on n'y arrivera pas autrement.
Tout remettre à plat sans augmenter le niveau de prélèvement.
Non, mais par exemple, la TVA, je me souviens, une des
elle arrive.
Oui, non. La TVA, c'est incroyable le nombre de taux différents qu'on a.
Donc, mais on a même déjà un taux unique en Europe à 2,1 sur les médicaments.
Donc si déjà on arrivait à harmoniser ou à supprimer un certain nombre de taux tout à fait spéciaux qui ont été accordés aux uns et aux autres à la suite de réclamations diverses et variées, peut-être que déjà ça serait un pas dans le bon sens. Je pense qu'il faudrait quand même arriver à simplifier notre architecture, notamment fiscale.
Mais si on harmonise en remettant tout le monde à 20, pardon, excusez-moi, c'est une hausse d'impôts, hein.
Oui, c'est une hausse.
Ah, alors, je pense qu'on n'y coûtera pas.
La TVA, c'est le seul impôt pour lequel on n'est pas au plafond. Et oui, on n'est pas supérieur aux autres.
Je sais, le plafond européen, c'est 25. Et on est un peu en dessous de la moyenne européenne.
Et ben, c'est le seul, hein, parce que quand même, sur tous les autres domaines, on est quand même très largement au-dessus.
Mais si la solution structurelle, c'est une solution fiscale.
Non, je dis pas que c'est forcément une solution fiscale.
Ah, ben oui, mais
je veux dire qu'il faut mettre tout. Non, c'est pas forcément une solution fiscale. Il y a aussi des dépenses. Je sais pas, il y avait un excellent analyse qui a été fait par Fipeco sur la structure des dépenses publiques dans les différents pays européens. La France, d'abord, a 10 points de plus de dépenses publiques que la moyenne européenne, ce qui est quand même beaucoup.
Oui, un point, c'est 24 milliards. Hein,
et notre structure de dépenses est aussi différente. On dépense plus dans quasiment tous les domaines et on dépense beaucoup plus pour la retraite, la santé d'ailleurs, franchement, enfin, tout le monde y a un consensus pour dire que la santé, le financement de la santé pose problème. Et pourtant, c'est un des secteurs sur lequel on dépense plus que tous les autres pays européens. Donc il y a un vrai sujet là, ça veut bien dire que la dépense n'est pas efficace. Et quand on arrive à une situation où la dépense publique n'est plus efficace, eh ben, il faut réfléchir à des solutions structurelles.
Eh ben, elles crèvent pas les yeux, les solutions structurelles. Parce que le problème, c'est que dès que vous commencez.
Surtout, elles ne sont pas faciles.
Oui, mais bon, après, si on veut vraiment faire la réforme de l'État, il faudra commencer à poser des questions qui sont des questions qui fâchent, comme le fait de conserver ou pas le statut de la fonction publique.
Oui, mais il y a un moment où on n'a plus d'autres solutions. Je vous dis, pour moi, le moment, c'est quand la dépense publique n'est plus du tout efficace, voire contre-productive.
Oui, je sais bien qu'il y a des moments où il n'y a pas de solution, mais généralement, il y a un refus de la population, même quand l'évidence, c'est qu'il n'y a pas de solution. Quand on se dirige vers un actif pour un retraité, il y a un moment où il n'y a pas de solution. On ne va pas prendre l'intégralité d'une pension.
Par exemple, tiens, réforme structurelle.
Oui.
On a un système de retraite par répartition.
Ah.
Ça ne marche pas dans une situation démographique où vous avez de plus en plus de non-actifs ou un volume d'actifs qui diminue. Ça ne marche pas, c'est juste mathématique. Et donc, il faut passer à une retraite où il y ait plus de capitalisation. D'ailleurs, vous voulez qu'on parle de l'union des marchés de capitaux, ça serait une des solutions, c'est d'avoir des systèmes de retraite par capitalisation avec des fonds européens, par exemple. Pourquoi pas ?
Les Allemands lancent un fonds souverain. Un fonds souverrain qui a un objectif de capitalisation pour la retraite. Je voulais réagir à plusieurs reprises, Mathieu.
Il y a beaucoup de choses à dire.
J'aime bien qu'on apporte des solutions.
Non, mais alors, c'est vrai que la solidarité française sur la dépense publique, c'est la dépense de protection sociale qui fait quasiment, ou voire même un peu plus que la moitié de la dépense publique. Je regardais d'ailleurs, c'est vraiment la singularité parce que la part du public dans les retraites et la santé est certainement la part la plus importante des pays de l'OCDE. Donc, on mutualise cette dépense-là. Ça, c'est très clair. Et donc, c'est surtout ça qui fait cette singularité. En fait, sur les autres postes, on est beaucoup moins différent des autres. Donc, en fait, ce qui fait que... Alors, on a une dépense de défense aussi qui est assez élevée, hein, avec notamment le nucléaire, l'arme atomique, je voulais dire.
Une défense c'est un importante. Poste qui nous distingue, effectivement, la défense.
Ouais. Qui nous distingue, notamment. Alors, c'est vrai qu'on a la question de la démographie aussi. On a une démographie... Malgré tout, on a plus de jeunes qu'ailleurs. Et donc, même à dépense équivalente de jeunes, par exemple, je regardais sur l'éducation, même si par élève, la dépense n'est pas supérieure, le poids est forcément plus élevé.
Mais parce que les autres sont dans une situation encore plus catastrophique.
Voilà, c'est ça. Donc, non, mais il n'y a pas de quoi se réjouir.
C'est dans un élan démographique.
La réalité, c'est que si on veut faire des économies importantes, il y a rarement des économies magiques. Il peut y avoir de l'argent magique, mais je ne crois pas qu'il y ait d'économies magiques, il y a des choix politiques. Et donc, ça, voilà, cette dépense-là, elle va dans la poche de quelqu'un, que ce soit des ménages ou des entreprises, à un moment donné, ça ne va pas sur la Lune. Quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et donc, forcément, tailler dans la dépense publique, on aimerait, effectivement, l'innovation, l'efficacité, le numérique, tout ça, c'est déjà réfléchi, on aimerait qu'il y ait des gains. Mais c'est vrai que si on veut faire beaucoup d'économies, forcément, il y a des effets sur les transferts qui seront opérés aux entreprises, aux ménages. Donc, il y a des choix à faire. Et puis, deuxième point, c'est que la question de la fiscalité, je pense qu'on ne peut pas l'écarter comme ça. Quoi. On ne peut pas l'écarter parce que, et on l'a vu, hein, typiquement sur la question des niches fiscales brunes. Je reparlais de cette taxe carbone. Il était prévu, normalement, de réduire l'avantage fiscal sur le gazole non routier. Mmh. On a renoncé très vite. On est censé faire la transition écologique et on renonce dès qu'il y a ça. Alors que ça devait être censé être une recette fiscale plutôt intéressante. Il y a la question, par exemple, il y a eu la question des super-profits. Est-ce qu'il ne fallait pas, ponctuellement, taxer un peu plus les super-profits parce que on a des dettes de crise, est-ce qu'il ne faut pas une recette de crise? Voilà, je veux dire, c'est assez logique, il n'y aura pas d'argent non plus facilement prenable.
Pierre Moscovici dit qu'il faut un impôt exceptionnel
et temporaire. Moi je donne l'exemple par exemple d'Alain Juppé, je crois qu'en 95, alors pour d'autres raisons, il a fait une surtaxe de l'IEX exceptionnelle, hein, c'est-à-dire pour certaines entreprises, je ne sais plus quoi, de 10% de plus. Mais je veux dire, on ne va pas échapper presque à un impôt de crise. On a une crise qui nous a couverte, l'État a joué le rôle d'amortisseur, a joué le rôle de pompier. Bah, à un moment donné, il faut expliquer aussi qu'il va falloir certainement trouver un financement de crise. Voilà. Et donc, la question, c'est comment on le répartit le mieux possible.
Il y a un auditeur qui dit Sylvie Matera a tout dit, maintenant il faut faire. Ben oui, c'est ça le
truc. Il n'y a qu'un faucon.
Structurel. Il y a un peu de structurel dans passer de l'État-providence à l'État-protecteur.
Il y a énormément de structurel. Moi, j'ai été regarder quelle était la définition de la providence. La providence, c'est quand vous avez un être omniscient qui vous dirige et qui vous accompagne dans l'ensemble de vos actions pour vous conduire vers un futur meilleur. En général, c'est la providence, elle était au départ la providence divine, donc c'était Dieu qui était cet être supérieur. Et avec l'État-providence, c'est l'État qui est là pour nous accompagner vers un futur vers des lendemains qui chantent, vers un futur avec une répartition beaucoup plus importante. Et est-ce que mais avec un État omniscient qui intervient dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et est-ce que effectivement, il faut passer d'un État providence à un État protecteur qui se concentre avant tout sur ses fonctions régaliennes et qui n'est pas non plus un opérateur dans tout? Est-ce que l'État doit être un opérateur dans tout? On a un hôpital privé, on a un hôpital public. On a une école privée, on a une école publique. Est-ce que l'un est systématiquement meilleur ou moins bon que l'autre? Je pense que toutes ces choses-là peuvent s'opérer avec un État qui définit les règles, qui définit les éléments de justice sociale et de répartition. Et donc, c'est là où on est en protecteur, c'est-à-dire la protection des plus faibles, la solidarité qui est régulée par l'État. Je rappelle que dans l'école privée, il y a énormément de gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont très peu de moyens, et qui sont des populations très modestes, qui vont dans l'école privée, parce qu'ils vont à l'école privée et que c'est pris en charge très largement par la solidarité, avec des financements, avec des qui sont très différents en fonction des quotients familiaux des différentes familles. Et donc, l'école privée ne veut pas dire école qui est chère. Donc, l'État peut très bien intervenir pour dire quelles sont les règles, comment ça doit fonctionner. Il protège les populations les plus faibles, il organise la solidarité. Au passage, dans les solidarités, on parlait de la retraite et de la dépendance. Parce que la dépendance, les coûts de la dépendance, on a devant nous un mur qui est la transition démographique. On parle de la transition écologique, mais il y a une chose qui est encore plus impressionnante qui va nous arriver dessus, c'est la transition démographique. Et donc, comment est-ce qu'on va financer la masse de personnes qui vont à la retraite et la masse de personnes qui vont encore plus importantes, qui vont être dépendantes? Soit on continue à faire ce qu'on faisait, c'est-à-dire la solidarité intergénérationnelle. Ce sont les actifs qui cotisent pour ceux qui sont à la retraite et qui financent ceux qui sont dans la dépendance, ou est-ce qu'à un moment ou à un autre, on va aussi penser à une solidarité intragénérationnelle? Parce que quand on regarde aussi la répartition...
Intragénérationnelle, vous faites...
ce sont les seniors, les seniors les plus riches qui payent pour les seniors les plus pauvres et qui sont solidaires avec les seniors les plus pauvres.
Ils ont tous les jours, les seniors, droit à une petite ponction dans cette émission. Depuis lundi, tous les jours, ils ont leur petite ponction.
Pourquoi? Parce qu'on ne prend qu'aux riches. Aujourd'hui, plus de 70% du patrimoine des Français, c'est détenu par les plus de 70 ans. Donc à un moment, si vous voulez faire une répartition et de la solidarité, est-ce qu'il faut continuer à faire peser toutes ces solidarités sur les jeunes générations, ou est-ce qu'il ne faut pas mieux réfléchir à une solidarité intragénérationnelle.
On marque une pause. On était avec Jean-Hervé Lorenzi, c'est un des sujets sur lesquels il travaille la semaine dernière ou il y a 15 jours, qui nous expliquait qu'ils avaient chiffré à l'horizon 2030 à 90 milliards de plus par an le coût ensemble du vieillissement en France. Donc effectivement, la facture, elle est devant nous. Il y a un moment, oui, il faut exclure aucune piste, hein, comme le président de la République, ça n'est pas exclu. Je pense que la fiscalité fait quand même partie des choses qui devront être explorées. Même si vous savez que je ne suis pas un super fan du sado-fiscalisme, pour reprendre la fameuse expression si chère à Jean-Marc Daniel. On marque une pause. Dans un instant, je vous demanderai si vous pensez que la légalisation du cannabis est une bonne chose, un peu de banque du Japon. Puis on s'intéressera, tiens, à un nouveau recul sur les contraintes vertes. Ça concerne notamment les zones à faible émission. A tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Sylvie Matera, senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazar. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Prévision de croissance OFCE, c'est 0,8, hein, je crois.
Alors, c'était notre prévision d'octobre 2023. Ah, oui. Donc, on est en plein dedans. Je ne vous donnerai pas le chiffre, mais ça sera certainement plus bas.
Guillaume Richard, président du groupe de services à la personne WeCare. J'ai eu pas mal de réactions. Il y a cet auditeur Astolf qui me dit « Il y a eu un impôt de crise. La hausse de 5% des retraites, elles auraient dû baisser de 5%. » C'est un sujet qui divise tout le monde, ça, hein, le fait qu'il y ait eu la revalorisation des retraites et qu'Emmanuel Macron ait enterré toute idée de sous-indexer les pensions de retraite pour 2025.
Ce qui est drôle, c'est qu'il reparle pour le futur de possibles désindexations. Ah oui, il l'a écarté, la désindexation. Oui. Mais la désindexation, elle est plus intéressante quand il y a de l'inflation. Hein.
Oui.
Quand l'inflation est faible, ça joue pas beaucoup.
Il y aura moins d'inflation, évidemment, en 2025. Mais parce que Thomas Cazenave avait laissé entendre qu'une sous-indexation des retraites était envisageable en 2025. Et Emmanuel Macron a totalement enterré cette idée. Il y a vaguement un scrutin important au mois de juin et c'est une population qui se rend massivement aux urnes et qui a tendance à avoir un vote assez conventionnel, on va dire. Légaliser le cannabis, moi j'ai eu le débat avec Jean-Marc Daniel ce matin, j'ai l'impression que tous les économistes sont pour, Guillaume Richard. Hein.
Bah, moi je suis pour, à la fois pour des raisons économiques et puis socialement aussi. Ça fait combien... Est-ce qu'il y a un seul produit que l'on a interdit sur lequel la prohibition a eu des effets positifs ? Est-ce qu'il y en a un seul ?
Je me suis posé cette même question, je
suis arrivé à... Voilà. Jamais.
C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que la répression a permis de faire reculer la consommation diminuant,
non, par contre,
le trafic, les cartels?
Et par contre, ce qu'elle crée, c'est ça, ce sont les trafics, les cartels, les machins, etc. Et quand il y a un peu plus d'un siècle, on avait de l'alcool frelaté et on avait des ravages causés par de l'absinthe qui était plus ou moins bien géré, aujourd'hui en France, eh ben, le niveau de... contrebande ou de malfaçon sur l'alcool, il est extrêmement réduit. Et donc, on est capable de faire de la prévention, on est capable de prendre des taxes, on est capable d'organiser une filière économique
avec
quand
des
on légalise.
Produits propres.
Absolument. Parce que
et freiner la consommation des mineurs.
Parce que l'énorme problème du cannabis, par exemple, c'est que moi, quand j'étais jeune, le taux de THC du cannabis était entre 3 et 5 % sur du cannabis. Aujourd'hui, il y a du cannabis à plus de 20 % de THC. Aujourd'hui, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et donc, à un moment... et ça a plus de sens. Donc il faut légaliser pour pouvoir contrôler, pour pouvoir sanitairement gérer les choses, pour pouvoir faire des campagnes de prévention qui sont associées, pour pouvoir taxer aussi, pour pouvoir générer une économie déclarée et saine et ne pas avoir des trafics et ne pas avoir des coûts et ne pas avoir une population carcérale qui aujourd'hui est remplie à quel pourcent ? Je crois que c'est quasiment 50% par des trafiquants de cannabis. Il y a un moment, ça n'a pas de sens.
Alors, il y avait eu un rapport du CAE en 2019 qui avait donné des chiffres. 2 milliards de recettes annuelles fiscales liées à la légalisation.
Et combien d'économies?
50 000 emplois créés.
Et combien d'économies? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher. Et puis après, on nous dit, oui, mais il faut pas légaliser le cannabis, parce que si on légalise le cannabis, c'est un marchepied vers d'autres drogues. Mais c'est exactement comme vous me dites, si vous me disiez, pour tous les consommateurs d'alcool ont un jour consommé de l'eau avant de consommer de l'alcool. Bah oui, enfin.
Non, mais il est clair que s'il y avait une légalisation du cannabis, il y a toute une partie du marché, du trafic qui serait éradiqué et des consommateurs vont pas, parce que c'est devenu légal, se dire tiens, mais je vais passer à un autre produit plus stupéfiant qui est resté dans l'illégalité. Mais le problème, c'est que ça inquiète beaucoup le ministère de l'Intérieur, parce que vous mettez en faillite des quartiers complets, du jour au lendemain.
Ah, ça effectivement, ah. c'est un point.
Vous avez des familles qui vivent de ça. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus d'argent.
Mais après, ils pourront se reconvertir dans le business légal.
Oui, oui. Vous avez un avis là-dessus, la légalisation du cannabis?
Alors, moi, franchement pas, mais je viens d'être convaincue.
Et moi, je suis totalement convaincue par ces parties.
Effectivement, si en plus ça permet de générer des recettes fiscales, alors tout va bien.
Mais on cherchait des recettes fiscales.
La légalisation, c'est ce qui est fait aux Pays-Bas, en fait.
Au Canada.
La légalisation, c'est organiser la distribution de.
Mais il y a les Pays-Bas, il y a le Canada, il y a une partie des États.
Le Canada le font aussi. Les États-Unis, c'est pour des raisons sanitaires.
Bah, ça dépend des États,
c'est
en fait.
Dépénalisation ou légalisation?
Il y a 10 États américains qui ont légalisé, dont la Californie.
Légaliser, c'est pas dépénaliser.
Oui, légaliser, c'est pas dépénaliser.
Voilà, et ça, c'est un point important. Et je crois qu'effectivement, ce qu'ont l'air de montrer les études, c'est que d'ailleurs, on est un pays qui consomme beaucoup de cannabis, malgré la dureté.
En Europe, oui, beaucoup.
Voilà, on fait partie chez les jeunes notamment. Oui. Alors même que, pourtant, les lois sont dures là-dessus. Relativement, si par rapport aux autres pays, on est quand même, il y a des études qui montraient ça. Et c'est vrai que du coup, en le légalisant notamment, ça permet aussi de faire beaucoup plus de prévention, d'en parler beaucoup plus clairement, de mieux accompagner, et donc effectivement la prévention.
Et la vraie gestion médicale, parce qu'aujourd'hui vous savez pas du tout ce que vous achetez.
Non, mais ça, c'est, il est vrai.
Parce qu'en plus, il y a le cannabis sous forme d'herbe et il y a le shit qui est de la résine. Ouais. Et dans la résine, vous avez tout et n'importe quoi. Vous avez tout et n'importe quoi. Et donc, il y a des vrais aussi sanitaires qui se posent.
Non, bien sûr.
Il est vrai qu'à l'époque du rapport du CAE, on n'était pas sur des taux de THC comme ceux que vous évoquez aujourd'hui. Et c'est un argument de plus, le fait d'avoir des produits qui ne soient pas ultra dosés ou alors voire frelatés, qui est aussi un élément qui plutôt plaide pour cette piste-là. Ce n'est pas un sujet qui est évoqué en France, il n'y a pas de débat sur la légalisation.
Non, bizarrement, il n'y en a pas.
Il n'y a pas de débat. A priori, c'est un peu comme la taxe carbone, c'est un sujet sur lequel la plupart des économistes, généralement, sont du même avis. Il n'y a pas tellement de sujets sur lesquels il y a consensus, mais ça en fait partie. Bon, bah oui, il n'y a a priori que des avantages, sauf que le risque d'émeute en banlieue est réel. Et là...
Le risque d'émeute qui serait généré par qui? Par les trafiquants qui, du jour au lendemain, perdraient leur monopole de trafic.
Qui serait généré par des quartiers entiers dont les familles vivent, en fait.
Oui, mais on peut
de
pas.
De l'argent généré
on
par.
On peut pas se satisfaire de ça non plus.
On peut pas se satisfaire de ça.
C'est pas vraiment. Non,
je suis pas sûr que ce soit le.
Oui, mais, il faut gérer la transition.
Bien sûr.
Certainement.
Vous savez, je sais plus qui disait, tant que les gens ont pas faim, FAIM, ils descendent pas dans la rue. Et c'est à partir du moment où ils ont faim que les problèmes se posent. Bon.
Ça pose d'autres problèmes dans les banlieues, les trafics de drogue, quand même.
Non, mais c'est évident.
Au-delà des recettes que ça peut apporter, quoi.
Ouais. Mais voilà. Oui, je sais pas si vous avez des réactions.
Je suis curieuse, quand même, de dire.
Et puis, en parallèle, vous avez vu l'opération anti-drogue XXL menée depuis 3 jours dans les quartiers à Marseille.
Oui, j'ai vu ça, bien sûr. Mais c'est pour ça que je vous pose la question.
Parce que ça va dans la direction de, on éradique les trafics. Donc, si on éradique les trafics, on éradique aussi les sources de revenus illégales qui font vivre ces familles. Donc, plutôt que d'avoir des sources de revenus illégales, transformons ça en sources de revenus légales.
D'ailleurs, le rapport du CAE proposait la mise en place d'une sorte de monopole d'État dans la production et distribution de cannabis en France. En soulignant d'ailleurs qu'on était l'un des plus grands producteurs de chanvre en Europe et qu'on avait possibilité de rebond agricole.
Ça a plein de vertus par ailleurs, le chanvre. Dans l'utilisation derrière de tout ce que vous pouvez faire dans les fibres, et dans l'isolation, etc., il y a plein de vertus qui ont été... oublié ou pas suffisamment cultivé, donc il y a pas mal de choses à faire avec.
Sylvie Matera s'est présentée depuis hier comme un événement à la Banque du Japon pour la première fois depuis hier. Je passe du coq à l'âne, hein, c'est bien le cas. D'accord. La Banque du Japon remonte ses taux pour la première fois depuis 17 ans et les repasse en
territoire positif. Oui.
Vous y voyez un événement?
Alors, c'est un événement puisque ça n'est pas arrivé depuis 17 ans. Donc ça, déjà, de manière temporelle, c'est un événement. Mais là, maintenant, quand même... faut pas totalement exagérer parce que les taux japonais évoluaient entre -0,1 et 0.
Oui.
Maintenant, ils vont évoluer entre 0 et 0,1, plus 0,1. Donc, certes, c'est un changement, mais c'est pas quand même une révolution fantastique. Cela étant, ça prouve que la Banque du Japon revient dans le cercle des banques centrales actuelles qui sont dans une phase de... qui ont remonté leurs taux.
Pas totalement quand même. Elle continue à acheter régulièrement des obligations publiques.
Une des grandes différences, c'est que effectivement, dans les deux principales politiques, qui est la politique de taux et la politique d'achat, la Banque du Japon continue à acheter, notamment elle achète des dettes d'État qui, au Japon, on parlait tout à l'heure de dettes françaises, mais alors au Japon, c'est très très considérable également. Et donc, ça va pas être un changement fondamental. C'est un changement dans la conception. Et je crois aussi une chose qui est intéressante, qui à mon avis plus importante, qui marque un changement d'évolution au Japon, c'est que pour la première fois, il y a eu des augmentations de salaires négociées. Parce que le Japon était un des rares pays dans lesquels il y avait zéro, non seulement augmentation de salaire, mais zéro demande d'augmentation de salaire.
Les Japonais sont pas comme les autres.
C'est-à-dire qu'ils trouvaient que ça se faisait pas de demander. Et en fait, ça c'est un changement de mentalité qui est à mon avis très très notable, puisqu'on a eu des négociations salariales qui se sont traduites par des augmentations et qui prouve qu'il y a eu un changement d'état d'esprit qui, à mon avis, là, très important.
Donc, un peu d'inflation au Japon ? Le pays où l'inflation était impossible ?
Ça ne va pas être considérable, à mon avis. C'est quand même un changement d'attitude.
Non, mais c'est un changement d'attitude.
Ouais. C'est important de...
Mathieu Plame.
Oui, c'est important de le noter, quand même, parce qu'il y a un changement... Parce que c'est là depuis 2007, je crois qu'il n'y avait pas eu de hausse de taux. Donc
17 ans.
17 ans.
Voilà, 17 ans. Et c'était, on était en négatif depuis 2007.
Là, c'est vrai que finalement, l'épisode Covid, plus crise, post-Covid, reprise post-Covid, crise énergétique, il y a des effets de protectionnisme aussi qui doivent jouer quand même sur l'inflation. Mais aujourd'hui, l'inflation est quand même supérieure à 2% depuis maintenant 2 ans au Japon, même si elle n'a pas atteint les niveaux qu'on a eu en Europe ou aux États-Unis. Mais c'est quand même un changement de doctrine. Et c'est vrai que s'il y a des augmentations de salaire, c'est quand même plutôt positif sur la dynamique économique. Ce qui était très étonnant, c'est qu'au-delà de ça, c'est que c'est un pays qui a un taux de chômage très bas. Pour le coup, la courbe de Philips ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'on a un chômage qui restait tout le temps autour de 3%, mais les salaires ne décollaient pas.
Non.
Mais parce que le Japon n'est pas comme les autres.
Le Japon n'est pas comme les autres, ça c'est clair. Et ils ont arrêté aussi, je crois, alors je ne sais pas comment ils appellent ça, mais il y a une espèce de contrôle de la courbe des taux.
Oui, c'est ça.
C'était notamment les courbes des taux, notamment faire en sorte que les taux longs ne dépassent pas 0%. Oui. Avec les rachats d'actifs, et ça, ils lâchent là-dessus. Donc ils vont diminuer leur programme de rachat d'actifs.
C'est un début de normalisation.
On a un début de normalisation, ce qui n'est pas inintéressant et qui donne peut-être un peu d'espoir pour l'économie japonaise, de sortir de cette déflation. La question, c'est quel timing pour la suite, sur les remontées de taux. Je crois que c'est aussi...
C'est très très subtil, quand même.
C'est très subtil, voilà.
Mais le japonais n'est pas comme les autres, et il est subtil.
Voilà. Et c'est le premier geste de subtilité pour la suite, normalement.
Vous avez des demandes d'hausse de salaire chez WeCare ?
Je n'ai pas beaucoup de japonais dans mes équipes.
Il y a eu plus d'inflation en France qu'au Japon aussi.
Là, vous êtes hausse de salaire à nouveau en 2024.
Bien sûr. Oui, tout à fait. De toute façon, moi, j'ai quand même une partie de mes intervenants qui ont des rémunérations qui sont relativement liées au SMIC.
Là, il y a le phénomène d'indexation.
De toute façon, il y a un phénomène d'évolution. D'évolution, sachant que ces dernières années, ça a quand même assez fortement augmenté.
J'avais pas prévu d'en parler, j'avais mis dans mes sujets, et puis finalement, on va en dire un mot quand même, parce que c'est une enquête qui a été menée par la Monnaie de Paris. Ah. Et la Monnaie de Paris arrive à la conclusion, parce que vous avez tous les deux eu une réaction que j'ai trouvée intéressante à évoquer. Il y a eu de l'inflation, on est dans une économie qui ralentit, eh bien, il y a une espèce de retour vers le cash. Et donc, l'enquête a été menée, je crois, par IFOP pour la Monnaie de Paris. 83% des Français se disent à nouveau attachés au cash. C'est 4 points de plus, c'est en 2023, c'est 4 points de plus qu'en 2022. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison, a priori, de se tourner vers le cash, Sylvie, quand il y a de l'inflation.
Non, c'est vraiment contre-intuitif.
Alors que c'est ce qui se passe.
Parce que mais je trouve ça totalement contre-intuitif. Parce qu'effectivement, en période où, quand il n'y a pas d'inflation, le coût d'opportunité de détenir du cash est faible ou nul. Donc vous pouvez garder du cash. Mais en période d'inflation, tout le cash que vous conservez se déprécie. Et donc, il vaut mieux le placer pour profiter de l'augmentation de la rémunération. Donc, c'est vraiment contre-intuitif. Bon, à part le fait que ça prouve bien qu'il faut augmenter l'éducation financière en France.
C'est la semaine de l'éducation financière.
Ben voilà, c'est pour ça que je le dis. Il faut vraiment augmenter l'éducation financière parce que, franchement, c'est vraiment contre-intuitif. Alors, ça pourrait prouver, enfin, ça pourrait être le signe d'une certaine inquiétude des Français.
C'est ça, en fait.
Et deux, peut-être quant aux banques dans lesquelles elles pourraient placer leur argent. Ce que je trouve quand même très inquiétant. D'abord parce que les banques françaises sont quand même très solides. Ensuite, parce qu'il y a un système de protection des dépôts, c'est-à-dire que tout l'argent que vous mettez en dépôt dans une banque, il est protégé à hauteur de 100 000 euros par le Fonds de garantie des dépôts.
Ça, c'est donc la promesse.
Mais ça, vous pouvez être absolument certain que vous récupérerez vos fonds. Donc, je trouve cette inquiétude.
Pas que tout le monde parte au tapis en même temps, quoi.
Et c'est vraiment contre-intuitif. Je suis très étonné, à vrai dire.
Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Et pour vous, Guillaume Richard, c'est un signe d'inquiétude?
Bien évidemment. On l'a lié là avec à l'inflation, mais je pense que l'inflation n'a pas eu cet effet-là. C'est surtout, je pense, les faillites des banques aux États-Unis. On a eu
SVB,
et puis le Crédit Suisse en Suisse.
Il y a une nouvelle banque aux États-Unis, une banque moyenne qui est aussi un.
Là-dessus, on se pose la question, plus la crainte par rapport à ce qui se passe en Russie, tiens, s'il y avait la guerre, qu'est-ce qui se passe, les banques, comment ça fonctionnerait? C'est juste un phénomène de crainte. Vous avez de la crainte, vous faites quoi? Vous allez vers l'or et vous mettez de l'argent liquide sous votre matelas.
Ou les cryptos.
Ou des cryptos.
Vous avez vu, on est passé à 12%.
Non, les cryptos, c'est très différent, les cryptos. Parce que les cryptos, si on regarde qui va vers les cryptos, ce sont les jeunes. Ils sont les jeunes qui sont influencés par les influenceurs des TikTok, des Instagram, des machins, etc. Qui ont l'envie de dire tiens,
c'est pas une valeur refuge.
Qui a gagné, qui annonce qu'il a gagné énormément d'argent grâce aux cryptos, etc. Et donc je veux faire la même chose que lui. Ouais. Et quand on regarde le profil, on a 57% des gens qui détiennent des cryptos qui ont moins de 35 ans.
Oui, alors là aussi, ça prouve qu'il faut améliorer l'éducation financière parce que ce truc-là est super, super, super risqué.
Mais je pense que tous ceux qui achètent des cryptos savent que c'est hyper risqué et qu'il faut pas y mettre plus.
Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y a des trucs de base dont il faut se souvenir. Un des trucs de base, c'est que vous n'avez pas de rendement sans risque. Ça a l'air tout bête de dire ça, mais c'est vraiment évident. Il n'y a pas de rendement sans risque. Si ça peut vous rapporter très cher, c'est que c'est très risqué.
Sinon, tout le monde
serait
riche.
C'est la règle.
C'est le loto. Vous mettez 1 euro, ça peut vous en rapporter 13 millions, mais la probabilité de chance est très faible.
Mais effectivement, j'ai vu cette étude et je trouve ça plutôt inquiétant parce qu'effectivement, c'est les jeunes. Et c'est les gens pas les plus fortunés, au contraire. Donc non, je trouve ça très risqué. C'est vraiment pas ça. C'est pas un baromètre.
KPMG, 12% des Français possèdent des cryptos. Il y a plus de Français qui possèdent des cryptos que de Français qui possèdent des actions.
Ah oui.
Mais ça va pas ça.
Un problème.
Hein. Mais c'est un vrai problème. Il faut vraiment augmenter l'éducation financière.
Bon, après, j'ai pas regardé les encours parce que quelqu'un qui possède des cryptos mais qui a mis 20 euros.
Oui, voilà, mais c'est l'encours qui compte quand même, effectivement.
Voilà.
Donc
j'ai creusé tous les chiffres.
Oui. Et après, c'est en direct les actions qu'on possède en direct, parce qu'à travers l'assurance vie, vous pouvez posséder des actions quand même. Donc, heureusement, je pense qu'il y a une différence. Non, je peux juste un mot là-dessus. C'est vrai que il y a quand même un effet d'érosion importante des dépôts quand vous avez de l'inflation comme on a eu. C'est-à-dire que on a plus de 10% de hausse des prix d'inflation sur 2 ans. Quand vos dépôts ne sont pas rémunérés, votre valeur réelle, elle perd 10%.
C'est vrai.
C'est un effet d'encaisse réelle négative. Donc, c'est vrai que vous n'avez pas intérêt à en posséder beaucoup. Or, ce qu'on voit, c'est que finalement, les gens ont plutôt tendance ne réagissent pas comme ça.
Oui, il y a le livret A, ça rémunère un peu.
Ça rémunère à 3% quand même.
Et puis, c'est net d'impôt.
C'est net d'impôt. Mais par contre, les dépôts, c'est clair. Alors, nous, on a regardé un certain nombre de choses qui sont intéressantes, parce que les ménages continuent à surépargner beaucoup. Et donc c'est vrai qu'on se demandait pourquoi ils surépargnaient autant. En réalité, quand on regarde ça, on dit bon bah donc du coup ils sont plus riches, ils ont mis plus d'argent de côté. Mais quand on regarde la valeur réelle des encours financiers, quand on enlève les effets de l'inflation, c'est-à-dire l'encours du patrimoine financier, en fait il n'est pas plus élevé qu'en 2019, malgré cette surépargne qui a été très forte pendant 4 heures, parce que l'inflation a mangé en fait le surplus d'épargne, donc ce qu'on appelle une forme de taxe inflationniste, c'est-à-dire que ça a érodé la valeur réelle des patrimoines financiers.
C'est l'impôt qui ne se voit pas.
Voilà, et donc du coup, c'est vrai que c'est assez particulier, parce que jamais on a mis autant de côté, et donc on pourrait dire l'épargne est très forte, effectivement elle est forte, mais par contre la valeur réelle des encours des patrimoines financiers n'a pas augmenté, voire même elle a baissé. en réalité, avec cet effet de l'inflation.
Mais est-ce qu'il prouve sans doute un phénomène d'inquiétude quand même chez les épargnants, parce qu'ils veulent reconstituer leur
Alors, est-ce qu'ils épargnent pas pour compenser cette
inflation? Reconstituer cette... Oui.
Une question.
On a 5 minutes 50. Petite explication de texte sur l'union des marchés de capitaux. J'entends parler que de ça. Bruno Le Maire est obsédé par l'union des marchés de capitaux. Il s'agit de quoi? D'unir qui? Pour faire quoi?
En fait, les pays européens. C'est-à-dire que, pour faire simple, plutôt que d'avoir différentes bourses, par exemple, la bourse de Paris, la bourse de Francfort, la bourse d'Amsterdam, vous auriez un grand marché unique.
Une bourse unique.
Une bourse unique. D'accord. Avec des règles uniques, avec un superviseur unique, et qui permettrait de créer ce qu'on appelle un pool de liquidités, c'est-à-dire qui serait assez grand pour que les entreprises puissent émettre, donc puiser dans ce marché de liquidités pour financer leurs besoins. Puisqu'en Europe, on se finance, c'est très connu, les entreprises se financent par emprunt bancaire plus que par émission sur le marché. Et pourquoi? Parce que il n'y a pas de marché qui permet de financer ses besoins. Donc l'idée, ce serait de faire, à côté de ce qu'on a fait en matière bancaire, on appelait ça l'union bancaire.
Ça, je me souviens, oui. Qu'on considère comme quasi achevé.
Quasi achevé, on va dire. Faire la même chose sur les marchés financiers, une union de capitaux.
Ça fait combien de temps qu'on en parle?
Ça fait des années. Mais le problème, c'est que il y a eu des tentatives pour. Vous pouvez pas avoir un marché unique si vous n'avez pas les mêmes règles. Et il y a, on va revenir à ce dont on discutait au début. Une des règles les plus fondamentales en termes de marché financier, c'est la fiscalité. Et ça, chaque pays, par définition, la fiscalité est nationale.
Eh oui.
Donc, tant que vous n'aurez pas d'harmonisation, c'est très difficile de créer un marché unique. Pareil pour les règles, le contrôle. En matière bancaire, on a créé un superviseur unique avec la BCE. En matière de marché, il y a énormément de réticences pour faire la même chose, enfin le parallèle, avec un superviseur unique. Alors, on a déjà une autorité des marchés financiers européens, mais qui n'a pas de pouvoir de supervision sur les grands opérateurs de marché. C'est l'ESMA, qui d'ailleurs est basée à Paris. Et donc, l'idée, ça serait de donner à cette autorité des pouvoirs de supervision sur les marchés, comme la BCE en a sur les banques.
Je comprends très
et
bien.
Et là, la France n'est pas du tout d'accord. La France est très favorable. L'Allemagne ne veut pas donner un superviseur européen des pouvoirs de contrôle sur un marché.
Donc
on a un problème. Et puis le problème, c'est d'harmonisation. Vous n'avez pas à faire un marché unique des capitaux. Il faut d'abord avoir un grand marché. Pour ça, il faut des règles. La fiscalité est essentielle. Donc c'est très compliqué. Mais il faut aussi des produits. Et c'est pour
des
ça
produits.
Qu'on... Des produits européens.
Ah oui, d'accord. Oui.
Et financiers. Notamment, si on passait, par exemple, et je reviens encore, c'est un de mes grands dadas, un changement structurel du financement des retraites, puisqu'on a vu qu'il y a énormément d'épargne, que cette épargne ne va pas financer les entreprises parce qu'on n'a pas ce marché européen. Mais si on crée une incitation forte avec un produit d'épargne, par exemple, qui servira à financer les retraites, ça permettrait de réorienter cette épargne qui est chez nous stockée dans les livrets A ou sur les comptes à vue, de les réorienter vers le financement des entreprises, et ça serait vraiment très positif.
Et de réorienter celle qui
et ça, l'Europe. Et ça, ce serait une vraie réforme structurelle.
Mais ça paraît tellement de bon sens, en fait. Il faut se mettre d'accord.
Voilà,
parce qu'on sait qu'il y a une partie de l'épargne allemande qui va vers de l'obligataire US, par exemple.
Mais il y a beaucoup de choses qui vont vers les marchés étrangers, parce qu'ils ne trouvent pas... il n'y a pas les produits au niveau européen. Et deux, vous n'avez pas le marché, vous n'avez pas la place pour les échanger.
On vient de raconter un truc qui n'existera pas.
Dans ce cadre, il faut quand même saluer la grande réussite d'Euronext, qui a fêté ses 10 ans récemment, et qui est quand même une très, très grande réussite.
Et qui est la première bourse d'Europe, désormais.
Il faut vraiment le saluer.
Mais on vient de prendre deux minutes hyper claires, hyper pédago pour raconter un truc qui n'existera pas, Sylvie.
J'en sais rien. J'espère. La France a décidé de remettre ça de refaire un énième groupe de travail. Enfin, quand on voit la composition du travail, du groupe de travail français pour un marché de capitaux européen, il n'y a que des Français.
Oui.
Déjà, ça pose un
petit
problème.
On risque d'avoir du mal à convaincre nos partenaires.
Voilà, si déjà on ne leur parle pas.
C'est pas l'amour fou entre
la France
et l'Allemagne.
Alors, cela étant, ce que propose la France, qui est de dire, au lieu d'essayer de faire quelque chose à 27, on ne va pas y arriver, à se mettre d'accord à 27, essayons de nous mettre ensemble dans un plus petit groupe. C'est-à-dire de se mettre d'accord avec, par exemple, les Pays-Bas, l'Allemagne. Mais déjà, c'est compliqué.
Cette idée, il y a pas mal de gens qui réfléchissent à l'Europe, à ses difficultés et aux pistes d'évolution. J'ai souvent entendu l'idée qu'il fallait avoir une Europe opérationnelle resserrée à des pays historiques. En fait, vous prenez l'Europe de 1957 aux années 80-90, et les pays qui la composaient, ce serait la vraie Europe opérationnelle avec une dimension un peu fédérale.
C'est, alors, Mais bon, là, oui, mais c'est un peu compliqué. À partir du moment où on a une monnaie commune, bah oui, à 19 pays, oui, on ne peut pas trancher dedans. Donc, soit c'est il y a la zone euro et l'UE.
Ça, c'est un vrai critère.
Voilà. Mais par contre, au sein de la zone euro, dire on va exclure un certain nombre de pays qui ont la même monnaie et dont les décisions vont avoir un impact sur la monnaie et donc sur leurs économies, c'est un peu compliqué. Quand même.
Mais parce qu'en fait, on a fait l'Europe un peu à l'envers, si je peux.
Il ne fallait pas commencer par la monnaie.
C'est-à-dire qu'en théorie, la monnaie, c'est le point d'aboutissement de toutes les réformes.
Et on a pensé que ce serait le point de départ.
Non, on n'a pas pensé que ce serait le point de départ. On a pris le sujet sur lequel on pouvait se mettre d'accord, parce qu'il n'était pas politique, c'était un sujet technique. Donc en fait, notre problème, c'est que les principaux politiques européens préfèrent garder leur petite part de pouvoir, mais qui est vraiment à eux, plutôt que de partager un pouvoir plus grand.
On a terminé. J'ai pas le temps de faire les ZFE, Guillaume. Je suis désolé. Bon, voilà, pour l'info, le gouvernement a décidé... C'est pas présenté comme un recul sur une contrainte verte, un recul de plus, mais enfin c'est quand même bien un peu de ça dont il s'agit. Christophe Béchu a dit « le mieux est l'ennemi du bien ». Voilà, donc on a décidé d'exonérer de contraintes vertes.
Oui, parce que le point c'est toujours le même. C'est l'acceptabilité des contraintes liées à la transition écologique. Et cette acceptabilité, aujourd'hui, c'est celle qui nous a conduit à la crise des bonnets rouges, à la crise des gilets jaunes, à la crise agricole. Ouais. Et donc... aujourd'hui, il faut faire en sorte que la transition écologique, ça soit quelque chose qui soit désirable pour l'ensemble des populations et non pas un ensemble de contraintes.
Merci Guillaume Richard, Sylvie Matera pour cette explication de texte. Non mais c'est très super clair.
Merci.
Et Mathieu Plane également, merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.